Bonjour. Alors, je ne sais pas comment vous dire la joie qui est mienne d'être des vôtres. Merci pour l'accueil, Pierre. C'est toujours un bonheur. Je suis aussi un peu impressionné d'avoir à parler devant vous. Très honnêtement, j'aimerais plutôt écouter et être édifié par les uns et les autres que d'apporter un message. C'est vrai que j'ai servi dans une même église pendant 20 ans et lorsque je leur ai dit que je partais, il y a eu une grande fête. Et à ce jour, je ne suis pas certain si c'était pour me remercier des années passées ou de dire enfin. Quelqu'un peut le remplacer. Mais en tout cas, depuis que je suis avec ce privilège un peu de découvrir la situation dans différents coins du monde et que j'apprends beaucoup, je ne suis pas vraiment en mesure de conseiller pour l'instant, que j'apprends beaucoup, je vois à quel point la formation est clé pour garantir la pérennité, l'enracinement et la beauté d'une église. Et donc, à ce titre, je suis particulièrement reconnaissant pour le travail de l'IBG, parce que je crois que dans l'ensemble, l'IBG fait un travail qui est remarquable. Donc, vraiment, c'est chouette pour toute l'équipe qui s'en occupe. Et je prie que ça puisse continuer de nombreuses années, qu'à la fois la formation permette un enracinement dans l'écriture, mais également une pertinence vis-à-vis de la culture et des défis que représente le ministère. Alors, voilà. Merci de l'opportunité qui m'est donnée de parler ici. Et j'aimerais particulièrement parler un peu aux étudiants. J'imagine que vous avez de l'enthousiasme dans le cœur de commencer enfin, ce qui a probablement été un petit parcours de combattant pour parvenir jusqu'ici. J'imagine que certains pensent qu'ils sont en train de se rapprocher du paradis, puisqu'ils vont fréquenter des chrétiens devenus parfaits. À l'Institut biblique, il n'y a que des chrétiens mûrs, parfaits en sainteté, et ils vont vivre ce que la communion éternelle va leur proposer plus tard. C'est que dans l'Église où les problèmes se compliquent, jamais à l'Institut biblique. Certains aussi ici sont enthousiastes parce qu'ils verront des professeurs capables de répondre à toutes leurs questions et dispenseront leur immense sagesse qui les qualifieront pour le ministère à tout point de vue. Enfin, plus prosaïquement, certains se disent « l'IBG c'est bien, on n'est pas loin des pentes de ski et tous les week-ends on pourra en profiter l'hiver et que ça c'est génial ». Et puis je sais aussi que si vous êtes dans la perspective de faire un deuxième et un troisième cycle, il y a tout cet enthousiasme qui vient de penser que l'on va servir un projet tellement plus grand que soi qui est le projet de l'Église. On se prépare à servir Dieu. Et c'est enthousiasmant, non? Enfin, ça doit l'être, sinon à quoi ça sert de s'engager dans cette perspective? Et je me souviens, quand, après ma conversion, la pensée d'un plein temps s'est un peu imposée à moi. J'étais rempli d'une joie débordante en pensant que ça allait être à tout point extraordinaire et exceptionnel. Voilà, j'étais chanté un peu, d'abord à cause de moi. Je me croyais compétent et je ne le suis pas. Je me croyais bien, je ne le suis pas. Il n'y a que la grâce de Christ qui qualifie. Finalement, je me dis que dans la Bible, si Dieu a su parler au travers des ânes, c'est aussi possible pour nous. Mais j'ai aussi déchanté sur le fait que l'Église était quelque chose de redoutablement compliqué. Parce que l'Église rassemble des gens, et que pour rester les yeux enthousiaste sur la personne de Christ et de son œuvre, il fallait bien comprendre ce qu'était une église et ce que je voudrais évoquer avec vous ce matin, si vous me le permettez. D'ailleurs, même si vous ne me le permettez pas, parce que c'est ce que j'ai préparé. Et j'aimerais regarder un peu comment Christ bâtit l'église et en tirer quelques points d'encouragement. Et vraiment, ma prière pour vous ce matin, c'est que vous puissiez, mais de tout cœur saisir l'intention de Christ pour l'Église et qu'au milieu des vagues les plus extraordinaires que l'on peut vivre dans le ministère, vous gardiez les yeux sur cet objectif et dans les creux les plus profonds que l'on connaît aussi dans le ministère, vous puissiez garder les yeux sur cet objectif. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 16. Nous sommes là dans le premier moment où Jésus utilise le terme « église ». C'est la première fois qu'il prononce le mot, c'est la première fois qu'il en parle dans les évangiles. Et manifestement, c'est un moment assez important pour définir ce que Jésus a en tête lorsqu'il pense à l'église. Et nous lisons à partir du verset 13, donc Matthieu, chapitre 16, verset 13, les choses suivantes. « Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. » Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il leur recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ et nous nous arrêtons là. L'Église est vraiment une communauté dont Jésus est le centre et qui donne de l'espoir aux hommes de toute nation. Jésus est là à évoquer ce qu'est l'Église et ce que je voudrais développer avec vous, c'est que s'articule autour de trois points. L'Église est une communauté qui connaît Jésus, qui offre de l'espoir et qui touche toute nation. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que c'est une communauté qui connaît Jésus. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, c'est tout au nord, si vous avez une carte, vous le pouvez le voir. Il demanda à ses disciples, qui suis-je ? Et c'est assez amusant de voir les réponses qui sont données. Qui est Jésus pour la foule ? Ils servent un peu d'oreille de ce qui se passe, cherchent à voir comment les gens réfléchissent à la personne de Christ. Et j'imagine que ça devait être on ne savait pas trop comment prendre Jésus. Il débarque en quelque sorte. Ses origines sont un peu troubles. La réputation initiale est peut-être un peu étrange aux yeux de ceux qui ne connaissent pas son histoire, son origine vraiment. Il fait des miracles remarquables. Il est critiqué par les responsables religieux. Il critique leur hypocrisie. Il manifeste une sagesse hors du commun. Et les gens se demandaient vraiment qui il était. D'ailleurs, si on demande aujourd'hui aux gens qui est Jésus, que répondent-ils ? Peut-être vous connaissez Michel Onfray, qui est l'un des athées les plus importants, en quelque sorte, de la pensée française ou francophone aujourd'hui. Et lui, il dit « Jésus est donc un personnage conceptuel. Toute sa réalité réside dans cette définition. Certes, il a existé, mais pas comme une figure historique. » Sinon de manière tellement improbable qu'existence ou pas, peu importe. Il existe comme une cristallisation des aspirations prophétiques de son époque et du merveilleux, propre aux auteurs antiques. Ceci selon le registre performatif qui crée en nommant. Vous m'avez suivi. C'est moi qui insère. Avec les évangiles, les évangélistes narrent moins le passé d'un homme que le futur d'une religion. Bref, pour lui, Christ n'est vraiment rien et qu'il ne faut surtout pas imaginer que l'évangile nous rapporte quelque chose de vrai. Il y a Dawkins du côté du pays dont tu as parlé tout à l'heure, qui parle des évangiles comme remplis d'informations mythiques et non historiques, profondément remaniées dans le temps. Les évangiles ne doivent vraiment pas convaincre le critique de faire confiance au moindre de ses propos. Heureusement, il y a aussi des perspectives plus gentilles. Il y a Tolstoï qui dit « Celui qui comprend l'enseignement de Jésus-Christ ressent la même chose qu'un oiseau qui ne savait pas jusqu'alors qu'il avait des ailes et puis soudain comprend qu'il peut voler, être libre, qu'il ne doit plus avoir peur de rien. » C'est beau comme citation. Il y a également cet homme, Charles Duc, qui a marché sur la Lune, lui. Moi, je suis souvent dans, lui, il a marché dessus. Et il dit « Marcher sur la Lune fut pour moi une expérience extraordinaire. » Mais marcher avec Jésus-Christ, Fils de Dieu, voilà ce qui remplit vraiment ma vie maintenant et pour l'éternité. Il y a Carl Lewis qui court un brin plus vite que chacun d'entre nous, même David, je suis désolé. Il est le premier sprinteur à descendre le record de 100 mètres sous la barre des 10 secondes et il écrit, il dit, personne n'est parfait. Lorsque vous voudrez combler de vie le vide de votre vie et que vous vous rendrez compte que seul Jésus-Christ peut le faire, alors le désir dévorant de l'accueillir en tant que Seigneur et Sauveur se réalisera. Il dit encore, j'ai gagné des médailles d'or, elles sont là dans ma chambre, elles ne sont plus qu'un peu de métal aujourd'hui, mais Jésus, lui, n'a pas changé. Pourquoi je prends du temps à évoquer cette question ? Je voudrais vraiment souligner que l'Église se fonde sur une vue exaltée de Jésus-Christ. Et que la grandeur de Christ doit être dans les cœurs de chacun dans une église comme le centre le plus important. Et à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, les gens étaient dans une grande confusion à l'égard de qui est Jésus. D'ailleurs, ça se voit avec les réponses qui sont données, qui paraissent un peu loufoques. Jean-Baptiste, par exemple, ça doit être Jean-Baptiste, ça doit être Jean-Baptiste. Hérode croyait d'ailleurs que c'était Jean-Baptiste ressuscité, mais je pense que la culpabilité le tiraillait et qu'il craignait que peut-être il revenait lui critiquer le fait qu'il l'avait fait décapiter quand même. D'autres pensaient que c'était Élie, un prophète du 9e siècle. C'est un peu plus logique, d'abord parce que Malachie annonce le retour d'Élie, le retour d'Élie, et que donc c'était une... Excusez-moi. Il annonçait le retour d'Élie et que, en cela, ça pouvait peut-être expliquer la présence d'un homme qui faisait comme Élie de grands miracles. Et puis, Jérémie, par contre, c'est plus surprenant. C'est plus curieux, mais la Bible juive place parfois Jérémie comme le premier des prophètes dans la catégorie des derniers prophètes. Alors, oh, merci beaucoup. Pour les notes, c'est quoi ton nom ? Je prendrai du café décaféiné. Enfin... Trop tard. Et comme il est placé parfois comme le premier des prophètes dans certaines manières de classer la Bible juive, certains se disent il est revenu parce que aussi des traditions apocryphes, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans la Bible, annonçaient son retour. Jérémie et Esaïe apparaîtraient à la fin des temps, selon 2 Esdras. Ce n'est pas dans nos Bibles, c'est un peu une légende. Donc les gens se posaient des questions, mais qui est Jésus ? Vraiment, qui est Jésus ? Et aujourd'hui encore, les gens parlent de Jésus parce qu'il est marquant, il a marqué le monde. Et les réponses sont assez intéressantes quand on discute avec les gens. Mais finalement, Jésus s'intéresse moins à ce que les gens pensent et il s'adresse aux disciples. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Une question finalement qu'il pourrait nous poser, vous qui êtes présents. Qui est Jésus-Christ pour vous ? Qui est-il ? Et une question que l'on pourrait poser également dans nos églises. Celui qui juste nous aide à vivre, celui qui a des paroles sages ou bien un maître à suivre. Qui est-il vraiment ? C'est important parce que Jean 17 nous dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc vraiment le connaître, c'est au centre. Et l'apôtre Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui est envoyé, celui qui est annoncé par près de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est l'une des preuves les plus importantes que Blaise Pascal, le grand philosophe français, ait pu formuler pour dire que la Bible était vraie et que véritablement le christianisme marquait, enfin, était attesté comme vrai. Parce que qui peut à la fois consigner des siècles auparavant ces prophéties et ensuite les réaliser ? Fils de Dieu, dans un contexte hébraïque, est l'équivalent de Dieu le Fils. Il ne faut pas imaginer ici une sorte de descendance ou de création. On trouve fils de, par exemple, avec Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Ils n'étaient manifestement pas nés du tonnerre, mais qu'ils portaient les qualités essentielles du tonnerre, c'est-à-dire qu'ils étaient très colériques. Fils de Dieu, c'est vraiment de même essence, de même qualité. Jésus n'est pas devenu fils un jour, il est fils de Dieu et il l'est de toute éternité. Pierre le saisit et c'est vraiment une révélation surprenante. Pierre le comprend et il comprend que Christ est exalté au-dessus des cieux. Je pense que c'est important quand on sert Christ qu'il est au centre de l'Église. C'est idiot hein, de le dire comme ça si simplement dans un institut biblique. On pense que c'est quand même essentiel. Mais c'est marrant comme, avec le ministère, on a tendance à se préoccuper tellement des programmes, des problèmes, des difficultés, des charges, des projets, des budgets, des bâtiments, parfois quelques critiques. Mais ce qui est au centre de l'Église, c'est Jésus. C'est Jésus, le Fils de Dieu, celui qui, de toute éternité, vient, s'incarne, nous aime, vient sauver. Il est au centre. Il transforme les vies. Lorsque Jésus se présente à l'église d'Éphèse, une église qui a été marquée par des stars du monde chrétien, puisque c'est Paul qui la fonde, Timothée y est envoyé en stage pour remplacer même l'apôtre Paul, l'apôtre Jean y prendra sa retraite. Lorsque Jésus se présente à cette église, il prend le soin de se décrire comme celui qui tient les stars dans sa main, les étoiles. C'est ça ? L'église n'est pas centrée sur des hommes, des programmes, il est centré sur la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans bon nombre de définitions théologiques de l'église, c'est comme si Christ n'était même pas mentionné. Presque. Même un grand théologien dont j'apprécie énormément les écrits, Wayne Grudem, dit « L'église est la communauté de tous les croyants authentiques et de tous les temps ». Et c'est vrai, c'est une juste définition. Mais une définition qui manque un peu de Christ. Il est lui le centre. Neil Cole ainsi parle de l'Église comme la présence de Jésus au milieu de son peuple, appelé à former une famille spirituelle afin de poursuivre sa mission sur cette planète. Vraiment, l'Église est une communauté qui connaît Jésus. Et l'Église doit servir de lieu où on connaît Jésus de plus en plus, où on l'aime de plus en plus, où on l'exalte de plus en plus. Il doit être le centre de notre amour, de notre passion, de notre réflexion, au point même que lorsque Paul, au bord de la mort, écrit à Timothée sa dernière lettre, il lui dit, alors que c'est une lettre pastorale, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». C'est surprenant. Mais c'est tellement facile d'oublier Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas ? Enfin, c'est une confession en fait que je fais. Et l'Église se fonde sur cette intimité et développe cette intimité en Christ. Deuxièmement, c'est une communauté qui offre de l'espoir. Jésus ici dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. C'est Dieu qui t'a donné cette intuition spirituelle, cette illumination du cœur qui permet de confesser qui est Christ. » Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'empoudront pas contre elle. Alors, pour l'Église catholique, ce terme, cette expression a vraiment suscité une structuration de l'Église. Je ne vais pas trop le développer. Et ce texte a été compris différemment au travers des siècles. Mais cette lecture catholique a donné naissance un peu à la papauté, puisque Jésus, ici, prendrait... l'exemple de Pierre pour dire « Je vais bâtir mon église sur toi, l'apôtre, et que toi, l'apôtre, tu seras le socle d'une communauté qui va rayonner dans le monde entier. » Je lis par exemple dans le catéchisme les choses suivantes. « Le pontife romain a sur l'église, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'église, un pouvoir plénier, suprême et universel qu'il peut toujours librement exercer. » C'est bien sûr difficile à comprendre avec le reste de l'Écriture, mais à première lecture, on pourrait peut-être imaginer voilà, que Christ allait bâtir son Église sur Pierre. Alors, sans entrer dans une critique complète de cette perspective et une démonstration de cela, il faut quand même noter qu'il y a dans l'original un petit jeu de mots. Jésus reprend la réplique de Pierre et lui dit « Pierre ». Tu es Pierre. Et son mot veut dire, comme en français, Pierre, mais caillou. T'es un petit caillou, en fait. T'es un petit caillou. Ce qui est affectueux, non ? On aime bien les petits cailloux. Les enfants les ramassent sur la plage, hein, les petits cailloux. Mais tu n'es qu'un petit caillou. Parce qu'ensuite, il dit, sur cette pierre, mais un autre terme est utilisé dans l'original, Petra, ce roc, ce rocher, ce monument. Quel monument ? Ben, celui-là même que tu viens de poser en déclarant que j'étais Dieu le Fils, le Messie. Et je crois que dans les milieux évangéliques, ce point ne fait pas trop débat. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit par rapport à ce que je voudrais évoquer. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Là encore, c'est un texte qui fait débat. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ? Certains ont pensé que le séjour des morts ou la mort ne aurait aucun effet sur l'Église. En d'autres termes, que Jésus bâtirait son Église et qu'elle ne mourrait jamais. Ok, c'est une de toute façon une réalité et une vérité, n'est-ce pas ? Même si l'Église est malmenée par tout un tas de courants bizarres, étranges, et que ce sera encore le cas jusqu'à son retour, Jésus aura toujours un nombre d'hommes et de femmes qui l'aiment et qui lui seront fidèles et qui formeront l'Église, que ce soit l'Église universelle ou l'Église locale. Mais ce n'est probablement pas ce que Jésus évoque ici. Notre perspective, c'est que de dire que le pouvoir de la mort sera brisé par l'avancée de l'Église. J'aime bien cette image et je crois qu'elle est correcte. En d'autres termes, tout ce qui tient les gens captifs de la mort, c'est-à-dire le péché, n'est-ce pas, qui est à l'origine de la première mort et de notre mort, tout ce qui retient les gens dans la mort, que ce soit le péché, que ce soit les démons, parfois représentés comme gardiens en quelque sorte, ceux qui ont le pouvoir sur la mort, pour reprendre l'expression de Hébreux, seraient pleinement et entièrement vaincus à la croix de Jésus-Christ. En sorte que ce qui aujourd'hui retient les gens dans la mort se trouverait soudainement en position défensive par rapport à l'Église. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représenterait alors cette image. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui est à l'attaque et il y a un groupe qui est à la défense. Et manifestement, les portes ne sont pas des instruments d'attaque, n'est-ce pas ? On n'a jamais vu une armée partir au combat avec un ensemble de portes, garantie d'échec. Et ça veut dire que le séjour des morts, les gens qui sont morts spirituellement, les gens qui n'ont aucune espérance, les gens qui sont retenus en esclavage par leur péché ou par le diable en personne, sont sur la défensive par rapport à l'Église. Et j'en tire comme principe tout simple, c'est que l'Église est à l'offensive. L'Église de Jésus-Christ est à l'offensive pour offrir de l'espoir à ceux qui n'ont aucun espoir parce que tous vont mourir et tous éternellement seront séparés de Dieu. Et je trouve remarquable que l'Église soit là mentionnée comme source d'espérance. Si vous vous préparez au service de Christ, je vous suggère qu'au centre de l'Église, il y a bien sûr la connaissance d'un Christ exalté, magnifique, aimable, désirable, central. Mais il y a deuxièmement la perspective que l'Église est là pour donner de l'espoir. L'espoir éternel, de l'espoir par l'Évangile, qu'il y a toute une communauté d'hommes et de femmes qui sont retenus captifs dans la mort, qui sont des gens qui n'ont aucune espérance vis-à-vis de la mort et de la vie éternelle. Et nous sommes, par la volonté de Dieu et par la grâce de Dieu, ceux et celles qui apportons par l'Évangile une espérance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce point, mais si c'est le cas, quand vous serez responsable d'église, conduisez sous l'angle de l'évangélisation. Une église qui se focalise sur son nombril va commencer à sentir... Non, il ne faudrait pas que j'utilise cette image. Va commencer à juste être entourée de la complexité des hommes dans ce qu'ils sont de moins sympathiques. Une église qui est centrée sur les besoins des gens devient myope sur les besoins des gens et les besoins des gens ne seront jamais comblés jusqu'à ce que Christ revienne, n'est-ce pas ? Nous sommes toujours à vouloir plus, nous sommes toujours à vouloir nous plaindre de ce qui manque dans une église, des problèmes qu'il y a dans une église, des absences de compétences ou d'excès de compétences des responsables. On critique un ensemble de choses assez facilement dans une église et c'est normal, nous sommes que des pécheurs. Et donc, lorsqu'une église commence à regarder à elle-même seulement, elle perd son ADN, son essence même. Dieu est venu en Jésus mourir et ressusciter pour des pécheurs. Et il établit un peuple qui est une communauté qui doit témoigner de Jésus-Christ et de l'espoir de Jésus-Christ auprès de gens qui sont morts. Giacometti, peintre et sculpteur, déprimait en disant « Tous ceux que j'ai peints ou tous ceux que j'ai sculptés, je ne me souviens plus de la citation exacte, étaient des morts. » parce qu'il voyait au-delà de la vitalité présente ce moment inexorable où tout être humain perd la vie et où il ne reste plus rien que de la poussière. C'est important, me semble-t-il, qu'une Église maintienne son regard et sa vision sur l'espérance que donne l'Évangile. Et je pense que c'est une chose qu'il faut maintenir régulièrement, la passion pour les âmes. Ça mérite de passer régulièrement du temps dans l'intercession pour ceux qui nous entourent, de développer un réseau de relations avec des hommes et des femmes qui ne connaissent pas l'Évangile et qui sont simplement parfois interrogés par le fait de votre titre de pasteur ou de missionnaire ou de simplement que vous passez des dimanches à l'église, franchement, et qui peut-être ont dans leur cœur cette crainte de la mort, cette peur du péché ou cette réalisation. Jésus place l'Église en position offensive vis-à-vis des portes de la mort, comme si la mort essayait de garder ses membres et comme si l'Église essayait de les en arracher. N'est-ce pas d'ailleurs ce propos que tient Colossiens chapitre 1, où il est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » N'est-ce pas? C'est comme si on était kidnappé du monde des ténèbres et transféré de force dans le royaume de son Fils, où nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui ont soif de cette réalité. L'Église doit donner de l'espoir. Ça veut dire que son langage doit être compréhensible par la culture. Ça veut dire que, sans rien compromettre à son message, ça veut dire que l'Église doit être vivante dans son expression, un témoignage de l'amour que Christ est censé générer au sein de ses enfants. Ça veut dire que l'Église doit refléter l'ambition de Christ de former une communauté pleine d'espérance. Allez, troisième point. Je suggère que c'est une communauté qui touche toute nation avec les versets 19 et 20. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, Jésus dit à Pierre. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, ou plutôt, enfin ça c'est la lecture littérale, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Et là encore, le verset 19 est notoirement difficile à comprendre. Certains y ont vu l'expression traditionnelle du judaïsme sur le fait de lier et de délier en formulant des lois. Ce serait comme les juifs ont la halakha, ainsi les chrétiens peuvent définir un certain nombre de traditions. Mais pour nous, évangéliques, ça poserait un problème. Ça voudrait dire qu'il y ait non seulement la Bible comme autorité, mais une tradition supplémentaire, ce que nous refusons, et à juste titre. La Bible seule a raison, la Bible seule est l'autorité et le fondement de notre pensée. Les traditions sont intéressantes, que dans la mesure où elles soutiennent ce que Dieu a déjà dit, elles ne seront jamais que la pensée des hommes. Et puis, il y a une complication dans le sens des verbes. Ce que tu liras aura été lié. Comme si les serviteurs de Dieu ne pourraient faire que ce que Dieu aurait décidé déjà. C'est une forme assez forte dans la lecture de ce texte, comme si les serviteurs de Dieu étaient tellement imprégnés de la pensée de Dieu qu'ils étaient forcément à prendre toutes les décisions que Dieu avait déjà prises dans le ciel. Texte compliqué, en fait. Alors, peut-être que le plus simple, c'est simplement de regarder en lien avec le contexte. Jésus lui dit, je te donnerai quoi ? Les clés du royaume des cieux. Les clés servent à... Il y a deux personnes qui le savaient, ça m'encourage. Ouvrir, n'est-ce pas? Les clés servent à ouvrir. Et bien sûr, on vient parler de portes du séjour des morts. Et je me dis, il y a probablement quelque chose dans la vie de Pierre qui est lié au fait d'ouvrir une porte. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, on remarque dans le livre des Actes deux personnages marquants. Le premier, c'est effectivement l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre que l'on retrouve à la manœuvre en Actes chapitre 2, et il ouvre la porte de l'Évangile aux Juifs. Il est là, en Actes 2, après le baptême de l'Esprit, après la Pentecôte, après cet événement exceptionnel du parler en langue, à proclamer le message de l'Évangile à des Juifs qui croient par milliers. Un réveil extraordinaire et exceptionnel a lieu. Les hommes et les femmes qui sont descendants d'Abraham découvre la promesse faite à Abraham. Ce qui est intéressant, c'est que les Juifs n'imaginaient même pas, malgré tout l'enseignement de l'Ancien Testament et de Jésus-Christ, que l'Évangile allait ensuite se répandre à toutes les nations. Et on a l'impression que les apôtres restent un peu fermés sur eux-mêmes. Ils restent dans leur propre communauté juive, de gens bien, comme nous on est, entre nous, entre gens bien, de même éducation, standing social, pensée, perspective. Et on a de la peine à croire que Dieu est capable de pénétrer d'autres milieux avec l'Évangile. Et eux avaient ce problème-là. Et chaque fois qu'il y a une avancée de l'Évangile parmi les nations, c'est presque comme si Pierre était forcé d'aller ouvrir la porte. Vous vous souvenez des Samaritains ? Acte 8, c'est la deuxième porte que l'apôtre Pierre ouvre. Acte 8, les Samaritains, c'est même pas lui qui vient prêcher l'Évangile. Pire, juste avant que Philippe ne vienne prêcher la parole aux Samaritains, l'apôtre Pierre fait un miracle dans la vallée où il se trouve, et le livre des Actes nous dit que tous les habitants entendirent parler de Jésus-Christ. Tous, sauf certains, et notamment ceux de Corneille, ça sera un petit peu plus tard. Et comme Dieu fait quelque chose d'exceptionnel en acte 8, le Saint-Esprit ne descend pas pleinement, Philippe a dû être un petit peu consterné. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut que les apôtres se déplacent de Jérusalem et ils viennent. Les Samaritains doivent donc découvrir que le salut vient des Juifs, Jean 4, doivent découvrir que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, puisque Pierre se déplace. Pierre voit que l'Évangile est authentique, il impose les mains, le Saint-Esprit descend. Enfin, les Samaritains et les Juifs forment un même corps. Un mur racial s'effondre. Mais ce n'est pas tout. Deux chapitres plus tard, en Actes chapitre 10, je trouve ça assez merveilleux, si vous pouvez me permettre cette expression. Pierre est en pleine méditation. Et Dieu lui envoie une vision. Vous connaissez peut-être cette vision d'animaux impurs au regard de la loi de l'Ancien Testament. D'animaux impurs qui descend et Pierre doit manger, il dit, mais moi, j'ai jamais mangé ce genre d'aliment, je ne veux pas me rendre impur. Enfin, c'est contraire à mon éducation spirituelle, religieuse, contraire à la loi de Dieu. La voix dit, tu et mange. Alors, il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, parallèlement à ça, il y a Corneille, un païen, un soldat romain, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le judaïsme, mais qui était quand même craignant Dieu. Il avait compris qu'il y avait quelque chose de particulier dans la révélation de l'Écriture. Un ange lui apparaît pour aller chercher l'apôtre Pierre. Imaginez. Vous êtes Pierre, l'apôtre Pierre. Vous avez cette vision. Vous entendez ensuite des gens qui viennent vous chercher, qui sont des païens, enfin qui vous demandent en tout cas d'aller voir un païen. Donc quelqu'un qui fait partie d'une autre, j'ose dire le mot, mais comprenez que je ne pense pas en ces termes, d'une autre race, d'une autre ethnie, de gens qui ne sont pas de même niveau et qui se déplacent. Donc Pierre se déplace, il faut prendre un certain temps, il entre. Dans cette maison, c'est bien, parce qu'à l'époque, ce n'était pas gagné qu'on se mélange ainsi. Il rentre dans cette maison. Quelle est la première question que pose Pierre ? Pourquoi vous m'avez fait venir ? Vous imaginez ça ? Si un jour vous êtes pasteur, ou missionnaire, ou évangéliste, et quelqu'un vous fait venir de loin, parce qu'ils savent que vous êtes serviteur de Dieu, j'espère que ce ne sera pas la première question qui vous viendra. J'espère que la première chose qui dit « Je suis tellement content d'être parmi vous, laissez-moi vous partager une bonne nouvelle. » Mais l'apôtre Pierre, presque, est là sans savoir qu'il a dans ses mains une clé pour ouvrir la porte des païens. Et il prêche l'Évangile et avant même qu'il termine, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui sont présents. Hommes et femmes parlent en langue, comme c'était le cas en Actes chapitre 2. Pierre comprend qu'il y a quelque chose d'unique qui a lieu et que le mur de l'inimitié qui séparait juifs et non-juifs est en train de s'effondrer. C'est pour cela que j'ai voulu souligner dans ce troisième point à quel point l'Église doit être une communauté qui touche toutes les nations. C'est quelque chose que je commence à réaliser, que j'aurais aimé réaliser auparavant. C'est que l'Église doit permettre et faciliter cette intégration d'hommes de toutes nations. Et dans un monde qui se cristallise et se polarise sur des questions comme l'origine ethnique et autres, il faut que les journalistes et les gens qui regardent comment nous vivons en tant qu'Église disent « c'est absolument pas normal, il y a 20, 30 nationalités dans cette Église et ils s'aiment. » Et que l'espoir vient d'une relation personnelle avec Christ et que l'unité est possible à cause de Christ, par Christ et pour Christ. Parce que ce qui nous unit est si profond que rien ne pourrait nous diviser en dehors de la croix. En dehors de la croix. Alors je crois quand Jésus dit à Pierre que il a les clés. Je ne pense pas que c'était éternel. Pierre ouvre la porte des Juifs, ouvre la porte des Samaritains, ouvre la porte des païens en Actes 10. Et puis ensuite, quelques années plus tard, bien sûr, dans le livre des Actes, c'est Paul qui prend la relève et qui mènera l'évangile jusqu'à Rome. Et puis quelques années plus tard, en Apocalypse chapitre 1, Jésus se présente et c'est lui qui a les clés. C'est lui qui a les clés, ce qui implique pour nous tous que c'est lui qui fait rentrer, n'est-ce pas? Cette question n'a jamais été plus parlante pour moi que depuis que je voyage un peu et que je dois faire attention au problème de visa. Et je me souviens assez péniblement d'une fois où je voyage maintenant avec deux passeports, parce que pendant qu'un passeport récupère les visas, je voyage sur l'autre et comme ça je peux faire l'inverse et ça me permet d'avoir toujours un passeport valable. Et je me souviens d'un jour où je partais au Tchad justement et je me suis dit, une semaine avant, n'oublie pas de changer le passeport dans ton portefeuille, tout fier de ma forte capacité intellectuelle, je change le passeport. Et la veille du départ, j'ai dû conduire mon épouse chez le médecin, j'étais un peu préoccupé, et juste avant de partir, il faut juste que je change mon passeport de mon portefeuille. Heureusement que j'y ai pensé. Et j'ai changé mon passeport avec toute la confiance de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je voyage maintenant. Journée formidable dans l'avion, j'ai travaillé comme c'est un coin, il n'y a pas Internet, on bosse dans un avion, c'est remarquable. Et donc j'étais vraiment heureux d'entendre que, enfin après un travail réalisé, que l'on allait descendre et qu'il fallait maintenant remplir les formalités administratives. Et je suis devenu blanc, mais plus blanc que blanc maintenant, pour réaliser que j'avais le mauvais passeport. Je m'étais trompé donc. Et que quand je suis arrivé, des gens très aimables étaient très heureux de me dire que l'avion qui m'avait amené me ramènerait le soir même. Ils avaient la clé. Ils pouvaient laisser rentrer, laisser sortir comme ils voulaient. Et je pouvais négocier comme je voulais, ils avaient la clé. Jésus a la clé, bien sûr, et dans cela, j'ai réalisé toute l'autorité de quelqu'un qui fait rentrer et qui fait sortir. Et je voulais juste le dire pour souligner que ce n'est pas un prêtre, un pasteur, une église qui fait rentrer. Si vous êtes là de passage, un peu perdu dans un monde évangélique, ou peut-être juste pour accompagner vos amis qui sont là pour rentrer dans la Sainte École de Genève, de réaliser à quel point l'invitation est forte, que l'Église n'est pas une institution, n'est pas une organisation, c'est un organisme qui se fonde sur une connaissance personnelle de Christ. C'est vraiment le visa d'entrée. Et qui donne de l'espoir jusque par-delà la mort. C'est vraiment le centre, c'est pas de chauffer les bancs d'une Église. Et qui ensuite forge une communauté de gens très différents, très bizarres, très étranges en fait, mais qui est tout à la gloire justement de ce que Dieu veut réaliser au travers de notre humanité perdue. Alors je m'arrête là et je souhaite, vraiment je formule ce vœu, qu'au-delà des contraintes ministérielles que vous rencontrerez en tant que pasteur, missionnaire, simplement responsable, ancien dans une église, vous vous souvenez que l'Église est une communauté dont Jésus est le centre et qui donne de l'espoir aux hommes de toute nation et que ça reste un peu comme un cap à tenir malgré toutes les vicissitudes propres au ministère. Je vais prier. Dieu et Père, je voudrais te rendre grâce parce que, ayant vu ce monde brisé, tu t'es mouillé en quelque sorte de façon complète et absolue. Tu as envoyé ton Fils t'incarner, prendre ma vie, mourir sur la croix pour tous ceux et toutes celles qui un jour placeraient leur confiance en toi. Quelle grâce, quel cadeau aussi de nous établir dans une communauté où on va apprendre les uns des autres, où on va grandir à l'image de Christ, en amour, mais aussi en développant une perspective missionnaire, concrète, réelle, substantielle. Et je prie, Père, pour que chacun de nous soit saisi de ta pensée, pas la mienne, mais celle de l'Écriture, avec tout ce que tu voudrais compléter par ton esprit en nous, pour que la gloire de Christ manifestée dans l'Église puisse saisir nos cœurs, renouveler notre courage, nous rendre passionnés de toi. Et tu suscites un renouveau dans nos assemblées. Nous en avons besoin et nous confessons, Seigneur, qu'il n'y a rien en nous qui permette ce renouveau, si ce n'est la grâce qui est en Christ. Seigneur, bénis chacun, ceux qui sont découragés, ceux qui sont au contraire juste au début de leur service, fortifie chacun d'entre nous et que, gardant les yeux fixés sur toi, à la fin du chemin, nous puissions nous réjouir de t'avoir vu à l'œuvre au milieu de nous, malgré nous, et pour ta gloire. Amen.